Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongée au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Les fêtes de Noël et de fin d'année sont maintenant en ligne de mire et je crois que vous avez choisi de nous présenter une série de chroniques que nous dirons festives et qui, comme la précédente, est reprise de celle qui a été diffusée en décembre 2022.
Je suis presque sûr que, comme la plupart des gens, vous ignorez, Florian, ce qu'est un néortologiste.
Oui, complètement.
Eh bien, rassurez-vous, je ne le savais pas non plus avant de préparer cette chronique, mais Wikipédia m'a appris que l'éorthologie, c'est la discipline des sciences humaines qui étudie les fêtes. Voilà, on en apprend tous les jours. C'est très modestement ce que je propose de faire de la façon la plus, vous avez dit, festive possible dans les trois chroniques que je consacrerai à l'Europe de la fête. La période de fin d'année nous y invite bien sûr et nous ne manquerons pas de revenir sur ces fêtes de Noël en Europe. Mais je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de revisiter notre histoire européenne pour y retrouver l'ancrage de cette tradition de la fête qui n'est pas une spécificité européenne et qui, disons-le, n'a pas toujours été paisible. Une tradition de fête dans laquelle la construction européenne, nous le verrons la semaine prochaine, a cherché aussi à s'inscrire, mais qui reste tout de même, autant dans sa dimension religieuse que civile, très attachée aux différents territoires et sociétés. Le mot « fête » est d'ailleurs, lui aussi, porteur de sens divers. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
Mais alors, de quand datent les premières fêtes que l'on célèbre en Europe ?
Dans l'Antiquité et en Grèce en particulier, où les jours de fête étaient très nombreux, plus de 60 par an, vous vous rendez compte, et parfois beaucoup plus localement. Il faut dire que du fait de la pratique de l'esclavage ou du servage, les citoyens avaient beaucoup de loisirs. Des fêtes liées à la nature, comme celles des moissons ou des commémorations de faits historiques ou légendaires. Le plus souvent, ce sont des célébrations en l'honneur des dieux et chaque cité avait son calendrier de festivités. Ainsi, les Dionysies qui se célébraient tous les ans à Athènes. Des fêtes somptueuses avec des festins. Fêtes et festins, vous l'avez remarqué, ont une même origine. Des processions dans lesquelles figuraient des allégories à caractère parfois délibérément sexuel et enfin des représentations théâtrales. À Athènes encore, les panathénées sont le cadre d'épreuves sportives, comme le seront les fameux Jeux qui se déroulaient à Olympie, bien sûr. À Rome, où l'on jouait aussi de beaux, l'on jouissait aussi de beaucoup de temps libre, une multitude de fêtes sont organisées par un pouvoir très centralisateur. Ce sont pour la plupart des fêtes religieuses qui donnent lieu à des cérémonies marquées par leur caractère militaire, mais aussi par les Jeux dont les citoyens romains sont friands. Cette tradition de la fête se poursuivra bien sûr au Moyen-Âge.
Et allez, on vous suit jusqu'au Moyen-Âge.
Alors une époque marquée, nous le savons, par une forte influence de la religion chrétienne qui impose peu à peu à toute l'Europe son calendrier de fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, etc., qui pour le petit peuple laborieux des villes et des campagnes constitue pendant des siècles avec les dimanches les seuls jours non travaillés. Néanmoins, des traditions festives païennes ont subsisté, comme celle du carnaval, que l'on dit héritier des Saturnales romaines, qui étaient particulièrement débridées.
Le carnaval ? On pense à Venise, à Rio ?
Eh oui, le carnaval, s'il a gagné effectivement le Brésil et les terres lointaines du fait de la colonisation, c'est bien en Europe qu'il est né et s'est imposé. Et curieusement, cette fête du plaisir et des débordements, des hommes déguisés en femmes, des domestiques jouant au maître, etc., est liée à un temps religieux plutôt austère, celui du carême qu'il précède. Le Mardi Gras veille justement de l'entrée des chrétiens dans le jeûne et l'abstinence. Quelques exemples, si vous voulez, de carnaval. Celui de Venise a pris au XVIIe siècle une ampleur. Il durait alors une bonne partie de l'hiver et une notoriété inégalée avec ses masques et ses déguisements luxueux qui masquaient, c'est le cas de le dire, tout un monde de débauche. En Hongrie, le carnaval des Buzos à Mohács est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. À Cologne, en Allemagne, ce sont depuis 200 ans les folles journées, de folles journées qui évoquent aussi ces fêtes des fous dont notre Moyen-Âge était friand.
Mais alors, c'est quoi ces fêtes des fous ?
Dès le XIIe siècle, à Paris et dans le nord de la France et de l'Europe, de curieuses mascarades sont apparues dans un cadre religieux d'abord, des parodies de cérémonies religieuses dans lesquelles les couches les plus modestes de la hiérarchie religieuse, sous-diacres, étudiants, etc., élisent le pape des fous, se déguisant, bouffant avec leur bonnet multicolore muni de grelots et avec la marotte, une sorte de sceptre détourné. Une fête des fous ouvre d'ailleurs le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et même la comédie musicale qui en a été tirée. L'Église mettra quelques siècles à interdire ces festivités et leur, disons, leur débordement incontrôlé. Le thème de la fête est d'ailleurs, du fait de ses couleurs et de sa fantaisie, un sujet de prédilection pour les peintres.
Alors là, il faut que vous nous donniez quelques exemples.
Bien sûr. En commençant par Peter Bruegel l'Ancien, ce peintre flamand du XVIe siècle dont on a sûrement vu ces scènes de kermesse endiablées avec des paysans et paysannes aux trognes truculentes qui dansent, boivent et ripaillent au son de la cornemuse. Dans un style beaucoup plus retenu, j'évoquerai les fêtes galantes d'Antoine Watteau, peintre français du début du XVIIIe, et leurs personnages costumés, des femmes dans d'élégantes robes de bal qui s'ébattent dans des parcs de châteaux. Un thème des fêtes galantes qui a inspiré un siècle plus tard, non un peintre, mais un poète, Paul Verlaine, qui en a donné le nom à l'un de ses recueils. À l'époque de Verlaine, c'est un grand impressionniste, Auguste Renoir, qui admire Watteau et compose lui aussi des scènes de fêtes et de réjouissances, les balles au moulin de la Galette, entre autres. Un peu plus tard, Chagall fera lui aussi rentrer dans ses tableaux l'étrangeté des fêtes de sa Biélorussie natale.
Mais de quelles fêtes nous parlerons la semaine prochaine ?
De fêtes un peu plus officielles et nettement moins fantaisistes, rassurez-vous.
Ok, très bien, merci Jean-Pierre, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous. Infos, histoires et actu autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.